VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le ministre américain de la Justice, William Barr, doit déposer aujourd'hui devant la commission judiciaire du Sénat, contrôlée par les Républicains après la publication ce mois du rapport de 400 pages du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. On s'attend à des questions sur les dernières révélations du Washington Post selon lesquelles M. Mueller aurait, dans une lettre et dans un coup de fil à M. Barr, demandé la publication des résumés que ses enquêteurs ont eux-mêmes préparés plutôt que la propre synthèse de 4 pages du ministre. Selon le procureur spécial, M. Barr n'a pas saisi complètement le contexte, la nature et la substance des conclusions de son enquête. Le ministre américain de la Justice avait conclu dans sa synthèse qu'il n'y avait aucune preuve de collusion entre la campagne du candidat Donald Trump et la Russie et que le président américain n'avait pas entravé la justice. Les démocrates ont appelé le ministre à démissionner. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido a appelé à une autre journée de protestation massive aujourd'hui pour forcer Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. Le point avec Michel Joseph.
Juan Guaido a qualifié de fausses hier soir les affirmations de M. Maduro selon lesquelles ce dernier aurait encore le respect et le soutien de l'armée. Les manifestations contre Maduro sont suivies attentivement à travers le monde et le peuple vénézuélien doit accentuer la pression sur le régime. Pour sa part, Nicolas Maduro est apparu à la télévision pour accuser l'opposition de tenter d'imposer au pays un gouvernement illégitime appuyé par les États-Unis et la Colombie. Selon lui, le Venezuela est victime de toutes sortes d'agressions. Le président américain Donald Trump a, quant à lui, menacé Cuba, je cite, d'un embargo total et du plus haut niveau de sanctions si la Havane ne mettait pas immédiatement un terme à son soutien militaire et autres au régime de Maduro. Quelques minutes après le tweet de M. Trump, son secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé que Nicolas Maduro était prêt à quitter le Venezuela mardi matin pour la Havane, mais qu'il en a été dissuadé par les Russes. L'administration Trump estime que M. Maduro se maintient au pouvoir à cause du soutien des Russes et des Cubains. A noter que le président Trump et son conseiller en matière de sécurité nationale, John Bolton, ont toujours répondu, en réponse à des questions sur une éventuelle intervention militaire, qu'il n'écarterait aucune option.
Chine et États-Unis entrent aujourd'hui à Pékin dans le vif du sujet concernant leurs négociations commerciales au moment où les tractations semblent entrer dans une phase décisive selon Washington. Selon la Maison-Blanche, les discussions devraient porter sur la question de propriété intellectuelle et les transferts forcés de technologies imposés par la Chine aux entreprises étrangères ainsi que la manière de vérifier l'application d'un éventuel accord censé entériner les différents commerciaux entre les deux puissances. Une nouvelle réunion est prévue le 8 mai à Washington où se rendront à leur tour les négociateurs chinois. De nouvelles discussions de paix entre talibans et États-Unis démarrent aujourd'hui au Qatar pour tenter de mettre un terme au conflit en cours depuis près de 18 ans. Si l'ambassade américaine à Kaboul n'a pas fait de commentaires immédiats, le département d'État avait déjà annoncé que son émissaire pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, se rendrait à Doha au début du mois pour rencontrer les talibans. La semaine dernière à Moscou, la Russie et la Chine avaient exprimé leur soutien au plan de paix américain et avaient souligné auprès de M. Khalilzad la nécessité d'un dialogue intra-afghan.
Nos infos sur voafrique.com.
11h04 minutes au Bénin, à Cotonou, 24 heures au Bénin où 24 heures a été donnée pour annuler les élections législatives du 28 avril. Vous vous en souvenez, c'est l'ultimatum que l'opposition a donné au président Patrice Talon. Les anciens présidents du Bénin, entourés des autres forces de l'opposition, ont appelé le peuple à prendre ses responsabilités pour, je cite, la sauvegarde des acquis démocratiques. Les précisions de notre correspondante sur place à Cotonou, Ginette Feuradandé.
C'est depuis le siège national de la résistance que l'opposition a exigé l'annulation des législatives qui, selon elle, jettent de l'opprobre sur la démocratie. Selon la déclaration lue par l'ancien président Nicéphore Soglo, Patrice Talon ferait mieux de répondre aux exigences de l'opposition s'il ne veut pas écourter son mandat à la tête du pays.
Qu'il renonce au délai à la confiscation du pouvoir législatif, sinon il finira par son mandat. Il faut être très clair là-dessus. Alors, nous disons qu'il renoue le dialogue avec l'ensemble de la classe politique à l'effet de trouver des solutions consensuelles pour la tenue effective des élections législatives totalement inclusives dans un climat démocratique apaisé.
Pour l'ex-président Yaïbouni, il est impossible que son successeur soit détenteur de tous les pouvoirs jusqu'au législatif qui assure le contrôle de l'action gouvernementale.
C'est inacceptable pour nous. Je le dis, j'ai pris toutes mes responsabilités. Le peuple a refusé la dictature. Le peuple exige le retour de notre démocratie. Fondamentale pour nous. Une question de vie ou de mort.
Le directeur de la communication de la présidence, Wilfred Léandron, dit dans une déclaration a expliqué que le processus électoral, malgré les intimidations, à respecter les règles de la République et que l'opposition serait seule responsable de la violence prônée.
Il faut donc laisser l'opposition responsable de ses menaces, de ses prétentions. Le peuple bénois observe très bien et voit qui sont ceux qui sont les promoteurs de la violence, du désordre dans le pays. Et à la limite, il faut bien convenir que s'il y a des antidémocrates, c'est évidemment ceux qui refusent de respecter les lois qui, face à un président légitime, se comporte de façon à dire qu'ils vont écourter son mandat, qu'ils vont lui accorder le pardon.
Mardi matin, les observateurs de l'Union africaine ont déploré les actes de violence et le faible taux de participation lors du scrutin. Ils ont aussi regretté la mort de deux personnes tuées dimanche. Ils ont invité les acteurs politiques à recourir à la paix pour limiter les dégâts. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les élections générales sont prévues le 8 mai. Il y a 25 ans, se tenaient les premières élections multiraciales de 1994, à l'issue desquelles Nelson Mandela a été élu premier président noir du pays. Mais un quart de siècle après, les espoirs d'une partie de la population noire ont été déçus et des inégalités profondes continuent de diviser la société sud-africaine. Reportage de Patricia Huyon dans le township d'Alexandra à Johannesburg.
À l'approche de l'élection générale qui se tiendra le 8 mai, le Congrès national africain, l'ANC, défend son bilan et promet de lutter contre la corruption qui ronge le parti. Banele Sankosi, secrétaire général de l'ANC à Alexandra.
Rien qu'à Alexandra, nous avons construit 11 300 maisons. Les Sud-Africains peuvent voir que l'ANC est prêt à se corriger et à demander des comptes à ses membres. Et c'est vers ça que nous allons.
Koutso Manjane est né en 1994. Il fait partie de cette génération sud-africaine qui n'a pas connu l'apartheid.
Mon père et ma mère m'ont dit qu'ils étaient heureux quand ils sont allés élire Mandela comme président, parce qu'il y avait la promesse que leur vie allait devenir meilleure.
Aujourd'hui, l'étudiant milite au sein de l'EFF, les combattants pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale qui séduit les déçus de la nouvelle Afrique du Sud.
Notre peuple continue de souffrir, d'être exclu de l'économie. Nous ne sommes toujours pas propriétaires des terres.
Des progrès ont été accomplis, des barrières sont tombées. Une certaine mixité raciale s'est installée, au moins dans les grandes villes. Le gouvernement a construit des maisons, étendu l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Une classe moyenne noire a vu le jour. Mais 10% de la population sud-africaine possède encore plus de 90% des richesses du pays. Patricia Huon, Johannesburg, pour VOA Afrique.
Des opposants du gouvernement sud-soudanais disparus en 2017 ont très probablement été assassinés par des agents de sécurité, selon un rapport de l'ONU rendu public mardi. L'avocat et militant Dong Samuel Loi, que l'opposant Agré Idri avait été enlevé à Nairobi en janvier 2017, quelques jours après qu'un tribunal a bloqué leur expulsion vers le Soudan du Sud. Un groupe d'experts précise avoir reçu des preuves indiquant que les deux hommes ont été enlevés par les services secrets soudanais et mis sur un vol commercial à destination
de Juba. Et puis le chef d'état-major de l'armée algérienne a opposé hier une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants qui réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour gérer l'après Abdelaziz Bouteflika poussé à la démission le 2 avril. La présidentielle prévue le 4 juin en Algérie, dans les délais prévus par la Constitution pour lier un successeur à M. Bouteflika, est la solution idéale pour sortir de la crise, a affirmé mardi le général Ahmed Gaïd Salah. Dans un discours, le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous aurez avec vous Henri Francisca. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.